In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
C'est parti.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens.
Je suis Anne-Sophie Supio.
Je m'appelle Grégory Vacher.
Vous êtes en quête de sens, et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah nous aussi.
Comment tu sais tout ça toi?
Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous.
Quelle bonne idée.
Oui.
Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui?
Alice Denoise, la meilleure tabacologue de l'univers.
Merci Francine.
Alors, on y va.
C'est parti! Wouh! Merci de nous écouter, c'est le plein de sens que vous écoutez. Je m'appelle Grégory Vacher, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, accompagné d'Anne-Sophie Supio.
Bonjour à tous.
Ce que vous ne pouvez pas savoir, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça fait 10 fois qu'on relance l'enregistrement, parce qu'on n'arrive pas à articuler. Mais là, le problème, c'est que Alice va se connecter dans vraiment, je pense, 1 minute à peine. Donc, on est obligé de garder cette introduction, même si elle est nulle. Il y a des jours comme ça, on part dans tous les sens.
Tous les sens. On vous fera un best-of parce que...
Je sais pas, best-of, il faut qu'il y ait du meilleur dedans. Mais là, on était en train... Donc là, on a coupé. Pourquoi ? Parce qu'on était en train de parler de Formule 1 dans l'introduction, alors que le sujet qu'on va aborder, c'est le tabagisme. Quel rapport ? Ouais, il y en a pas. C'était pour vous dire que là, on était parti très très loin.
Et en plus, comme vous connaissez Greg, qui souvent part dans plein de trucs... Mais là, c'est moi qui ai fait ça en plus, donc ça n'a pas de sens.
Oui, mais la fois d'avant, c'était moi. Ouais. Et on a tous les deux nos torts, d'accord ? C'est comme dans les couples, il faut savoir se dire qu'on a du beau en chacun de nous et aussi du mal.
Ouais, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de beau, moi, me concernant, mais...
Il y a du beau, c'est-à-dire...
Mais t'étais...
T'étais, tu vois, mais t'arrives à positiver, c'est ça que j'aime. Bon, alors, t'étais, il y a quoi sous t'étais ? Il y a des...
Des invités.
Ça veut dire quoi? Ah oui, en soirée, il y a des invités sous TTT, des fois, c'est vrai. Mais là, je voulais dire maintenant.
C'est comme du Guy.
Je voulais dire maintenant, sous TTT, enfin derrière, il y a tes poumons.
Oui.
Et voilà, tabagisme, super. On va parler de tabac avec Alice Denoise, qui va vous aider peut-être à arrêter de fumer pour tous les gens qui fument, ou qui va peut-être vous aider à trouver des solutions si vous avez des proches qui veulent arrêter de fumer. Sachant que Alice, elle a travaillé dans l'industrie du tabac avant, c'est
oui,
ça?
Oui, exactement. Alors, je ne sais plus si c'est exactement le marketing, la communication, ou les deux, parce que c'est sensiblement la même chose. Mais en tout cas, c'est marrant de prendre un gros virage comme ça et de se dire, bah, en fait, ça fait plus sens pour moi. Donc, je vais aller au parfait opposé.
Au parfait opposé. Et puis, d'ailleurs, on en avait parlé avec elle il y a quelques temps quand on faisait de la radio. Je crois qu'on l'avait reçue.
Oui, mais on n'avait pas le temps de prendre le temps, à l'époque.
Et puis même toi, tu avais des tout petits tétés à l'époque,
oui.
Tellement que tu étais stressée.
Ouais, c'est vrai.
N'importe quoi.
De toute façon, vous avez dit qu'on ne la referait pas cette intro.
Oui, donc c'est trop tard. Tu veux dire un dernier mot peut-être ?
Bah, vive mes tétés libres.
Vive les tétés libres, évidemment. Et puis ça y est, Alice vient de se connecter. Donc allez, un peu de sérieux, on met une cravate, on se rhabille, c'est parti.
Bonjour Alice.
Bonjour Anso, bonjour Greg.
Bonjour, bah, merci beaucoup d'être avec nous. On a fait une petite intro rapide et imparfaite, parce que voilà, c'est le genre de personne que nous sommes, rapide et imparfait. Mais on est très, très contente de t'accueillir. On s'était parlé en radio il y a quelques temps, entre deux pubs et un Ariana Grande.
C'est vrai.
On avait parlé de ce que tu fais, on avait parlé de tabagisme, et il me semble même qu'à la suite de ça, pendant Anso, elle disait que peut-être elle voulait prendre rendez-vous avec toi pour arrêter de fumer, non?
Oui, ça me dit quelque chose.
Et alors, elle t'avait appelé ?
Relancer ? Ben non. Ah. Mais je ne relance jamais, parce que sinon, c'est trop stressant, et puis il faut vraiment que ça vienne de la personne.
Après, c'est vrai que là, je suis mal à l'aise, par exemple.
Non, alors justement, je ne vais pas te traquer.
Non, mais c'est important, parce que c'est...
T'as perdu ton téléphone, déjà ?
Déjà, j'ai perdu mon téléphone, il a été mangé par un ours. À l'époque où j'habitais à Paris, tu sais, Paris est un peu une jungle. Non, oui. Mais je pense que déjà, à l'époque, je n'avais pas spécialement l'envie, et je vais te dire, je fume toujours. Je ne suis pas une énorme fumeuse, mais je suis quand même de la catégorie des... De toute façon, il n'y a pas de petits fumeurs, c'est ridicule de dire ça.
Non, mais ça va être l'occasion d'en parler tout à l'heure, parce que je trouve ça super intéressant, parce qu'on entend tout et son contraire aussi à ce sujet.
Moi, je fume qu'en soirée.
Ouais, et puis même une cigarette de temps en temps ou une cigarette par jour, il y en a qui vont dire, c'est pas comme si tu fumais un paquet. Et dans d'autres circonstances, j'ai entendu des gens dire, mais c'est la même chose, tu peux fumer une cigarette ou 30, ce sera pareil, Michel. Donc on en parlera avec toi tout à l'heure, Alice, mais d'abord, est-ce que tu peux nous raconter, pour les gens qui te découvrent aujourd'hui dans le podcast, ce que tu faisais avant, parce que tu travaillais pour l'industrie du tabac, c'est ça ?
Ouais, je travaillais en agence de com pour l'industrie du tabac, exclusivement. En fait, je suis rentrée pour travailler pour une marque dont je ne donnerai pas le nom, qui était une marque de cigarettes pour les femmes. D'accord. Et en fait, on devait la relancer dans le monde pour en faire une marque cool. Enfin, non, pas du tout une marque cool, d'ailleurs, en faire surtout une marque un peu à la Chanel, très belle, et capter le plus de femmes possible. Et moi, à l'époque, j'avais adoré cette idée parce que j'étais moi-même une très grande fumeuse. Et donc, quand j'ai appris le jour de l'entretien que c'était pour travailler pour cette marque-là, et que surtout que c'était pour le tabac, moi qui collectionnais les paquets de cigarettes quand j'étais petite, qui a fumé ma première cigarette à 11 ans, j'avais l'impression de... Je ne sais pas, de rentrer chez, dans la plus grande marque possible. Enfin, j'étais aux anges. Mmh. Et ça a duré assez longtemps, d'ailleurs, ce moment de cette lune de miel. Il a fallu vraiment du temps pour que je commence à voir les petits messages subliminaux et que je me dise, non, mais attends, je suis vraiment en train de me faire avoir. Et c'est marrant parce que souvent, j'avais fait une vidéo une fois où je parlais de mon parcours justement comme ça et j'avais pas mal de messages en commentaire assez négatifs de personnes qui me traitaient de blonde, de naïve, de tout ça. Mais c'est justement complètement ignorer ce que c'est que l'addiction, en fait, de me traiter de naïve. C'est quand on est fumeur, évidemment, qu'on ne se lève pas tous les matins en se disant qu'on s'empoisonne. Il y a quand même une part de déni qui est hyper forte.
Il y a plutôt même, moi, en tant que fumeuse, encore aujourd'hui, une notion déjà d'habitude, parce que tu aimes bien fumer ta clope en buvant ton café, et puis de plaisir encore. C'est ça le truc, c'est que effectivement, si j'avais conscience que je m'empoisonnais, peut-être que je le ferais différemment.
Ouais, alors moi j'ai fumé aussi pendant quelques temps, mais j'ai vraiment été le fumeur. Je pense qu'il y en a pas mal des comme ça, un peu bêtes, de je commence tard parce que je traîne avec des gens qui fument. À la terrasse, tu vois, au boulot. Et au début, je sais pas trop quoi faire. Et j'en fume une un coup parce que j'ai déjà essayé une fois en soirée, c'est rigolo. Et puis après, t'évolues petit à petit. Et puis je suis arrivé jusqu'à un paquet par jour facile. Je dirais que j'ai fumé pendant 10 ans à peu près. Une première méthode qui m'a permis d'arrêter de fumer, c'est le livre de Alan Carr.
Alan Carr,
c'est ça. Ouais. Qui s'appelle, je crois, La méthode simple pour arrêter de fumer, quelque chose comme ça. Et je me souviens d'une image, je parle de ce livre, parce que quand Anso, elle parle de plaisir, tu vas me donner ton interprétation là-dessus. Mais il y a quelque chose qui m'avait assez marqué, c'est qu'il parlait de l'image de... Enfin, en gros, il disait que la cigarette faisait du mal, mais que ça revenait à mettre des chaussures trop petites toute la journée. Et en fait, le soir, quand tu les enlèves, avec cette sensation de soulagement, c'est comme si tu te disais, elles sont trop géniales ces chaussures, parce qu'elles me font trop du bien quoi, le soir quand je les enlève. Mais en fait, c'est parce qu'elles t'ont fait du mal. Et apparemment, fumer, et je vais arrêter de parler parce que tu en parleras beaucoup mieux que moi, mais il y a cette notion un petit peu de notre corps s'empoisonne, suffoque, mais le fait qu'il résiste et qu'au final, il survive, c'est ça qui lui fait du bien, plus que l'action de la nicotine. Quoi.
C'est génial parce que moi, c'est une de mes phrases préférées du livre d'Alan Carr aussi.
Ah,
ça.
Okay.
Et donc j'en parle souvent, j'ai toujours beaucoup de mal à la retranscrire, mais oui, c'est ça, c'est le plaisir que tu ressens à enlever tes cigarettes, tes chaussures, qui te fait ressentir un plaisir qui en fait est un soulagement. Et du coup, moi, quand je rencontre des fumeurs, une des premières choses que j'essaie de voir, c'est parce que tous me disent que c'est un plaisir pour eux. Tous. Mais j'essaie de définir vraiment ce plaisir. Est-ce que c'est vraiment un plaisir ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de soulagement finalement? Qu'est-ce qui se passe juste avant qu'on prenne la cigarette? Est-ce que la personne, elle est bien, elle est zen, elle est vraiment pop-pop au top et c'est cerise sur le gâteau? Ce qui peut arriver d'ailleurs, hein, quand on est en train de boire un apéro avec des copains, c'est la cerise sur le gâteau, la cigarette. Mais le reste du temps, généralement, tu n'es pas en mode cerise sur le gâteau. Tu es plus en mode, je suis un peu stressé, un peu anxieux, un peu déprimé, je m'ennuie. Enfin, tu vois, il y a des émotions négatives qui rôdent que tu peux dire que ça vient de l'extérieur. Mais quand tu rentres un petit peu en introspection, tu te rends compte qu'en fait, très souvent, ça vient de l'intérieur. Et ce n'est pas forcément des personnes qui ont généré ça chez toi, c'est plutôt le manque de la cigarette.
Mmh. Ouais, donc c'est le manque physique, c'est l'envie d'avoir de la nicotine dans le corps, quoi.
Oui, c'est parce qu'en fait, plus tu fumes, plus ton cerveau va développer des récepteurs. C'est vraiment, c'est mécanique. Il n'y a que 5% des fumeurs qui réussissent à rester des fumeurs occasionnels. Les autres, mécaniquement, ils vont développer de plus en plus de récepteurs. Mmh. Et donc, plus tu as de récepteurs, bah, plus ils sont durs à rassasier et plus tu vas avoir besoin de consommer de la cigarette pour avoir la dose de nicotine. Et si tu ne l'as pas, gare à toi, ça, ils hurlent, tu vois, ils réclament leur dose de façon hyper violente.
Alors, je ne sais pas si tu l'as essayé, Anso, ça, mais je me souviens que dans le livre aussi, à un moment, c'était mentionné le fait d'essayer de fumer en conscience, en fait, c'est-à-dire vraiment se concentrer sur les sensations qu'on ressentait à chaque, je sais plus comment on dit, je suis plus fumeur,
chaque bouffée,
chaque taf, je sais plus comment on dit, désolé. et je sais que j'avais fumé comme ça, et c'est aussi ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il n'y avait pas forcément de plaisir, parce que le goût que je ressentais ou les sensations physiques, elles étaient pas agréables en fait.
Ouais. Ah, c'est vrai que moi, ça fait très longtemps du coup que j'ai pas fumé, hein. J'ai arrêté en 2007, je crois, donc ça commence à faire un bail. Mais c'est vrai que j'avais le souvenir que ça brûlait un peu la gorge, qu'en plus, parfois, on sent que ça fait un poids sur les poumons, qu'on s'interroge un petit peu sur le poids de ces poumons-là, que voilà, ça fait potentiellement un peu tout sauter, qu'on sent pas très bon. C'est vrai que quand tu es en conscience de ta cigarette, j'ai pas des souvenirs excellents. La première, peut-être, il y en a peut-être une ou deux dans la journée, ou trois qui sont très bonnes, notamment quand tu bois un verre d'alcool, où il y a une sorte de... de feu d'artifice x2, x3. Mais sinon, le reste du temps, c'est vrai que c'est surtout une mauvaise odeur, le souvenir que j'en ai.
Oui, c'est ça. Et puis, en fait, quand tu y réfléchis, il n'y a absolument aucun avantage. Enfin, tu ressors aucun truc positif à te dire. Enfin, genre, c'est ta mauvaise haleine, tu as les dents qui jaunissent, les doigts qui jaunissent. Enfin, il n'y a aucun avantage à fumer, en fait. Ça bouffe ta thune, en fait.
Ouais, enfin, peut-être le seul avantage, mais c'est pas vraiment un avantage. Mais moi, je sais que ce que j'ai apprécié peut-être au fond, quand je me suis mis à fumer, c'était de me dire, je fais ce que je veux, quoi. Il y avait un côté où je prenais le contrôle de ma vie en me disant, la société peut me dire c'est pas bien, ou mes parents ou quoi. Bah, en fait, si j'ai envie de le faire, je le fais.
Le rebelle nul.
Ouais, oui, c'est de la rébellion nulle, hein. Mais c'est comme quand tu te fais tatouer ou des trucs comme ça, pour ces raisons-là, parce que tout le monde le fait pas pour ça. Mais moi, je sais qu'il y avait cette liberté. Je suis maître de mes actions et peu importe ce que les gens en pensent. Et après, dans un deuxième temps, en tout cas pour moi, je me suis rendu compte que ça pouvait être le cas, tout en faisant attention et en faisant des choses qui n'étaient pas forcément nuisibles ni pour ma santé.
Et c'est tout à fait juste ce que tu dis, et c'est ça qui est hyper paradoxal en fait, c'est que la plupart des fumeurs, en tout cas des personnes qui commencent à fumer, le font pour se sentir libre, parce que généralement on commence quand on est ado, et voilà, on est un peu dans une phase de rébellion comme ça, sauf que où est la liberté quand tu commences à consommer le produit qui est le plus addictif au monde? C'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu es juste, je dis tu, mais c'est pas toi, c'est toutes les personnes qui commencent à fumer. Toutes les personnes qui commencent à fumer en pensant devenir libres sont en fait les victimes du discours de l'industrie du tabac, tu vois, qui a fomenté tout ça, comme la liberté, soi-disant la liberté féminine en fumant, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que c'est un communicant qui a fait fumer les suffragettes pour leur faire croire, tu sais, pour véhiculer cette idée que, comme les femmes, ces femmes libres-là fumaient, et ça voulait donc dire que fumer était un acte de liberté, tu vois, alors qu'en fait, tout ça, c'est du pipeau de com. Et je voulais aussi revenir sur... c'est que tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis, Anso. Tu dis que la cigarette, rationnellement, il n'y a rien de bien. Et ouais. C'est vrai, rationnellement, il n'y a rien de bien. Et c'est le problème, en fait, c'est que quand on veut arrêter de fumer, on est dans la raison. Alors qu'en fait, on s'en fiche un peu de la raison. Tu vois, si le poids de la raison était si important, personne ne fumerait, puisque ça coûte cher, puisque ça crée des cancers, puisque tout. Le truc, c'est qu'en fait, la cigarette, elle te sert à quelque chose. Elle t'est utile. Tu l'aimes pour une raison ou pour une autre. Elle te sert à quelque chose. Et il faut absolument regarder ça droit dans les yeux. Tu vois, peut-être qu'elle te donne le sentiment d'être cool. Peut-être qu'elle te soulage d'un mal-être que tu as créé, peut-être avec la cigarette. Mais il n'empêche que, quand ce mal-être il arrive, tu ne sais pas faire autrement.
Ouais.
Tu vois? Donc en fait, il faut absolument, et c'est ça, c'est vraiment les deux pendants, moi, quand je travaille la motivation, c'est évidemment, on va regarder les bonnes raisons, s'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, généralement, tout le monde en a, parce que comme on disait, la raison fait son job. Mais sinon, c'est vraiment d'aller chercher ce à quoi elle te sert et comment tu vas pouvoir faire autrement et démystifier la cigarette, en fait.
Parce qu'on est d'accord que les pires personnes pour t'aider à arrêter de fumer, en général, sans faire non plus de gros clichés, mais j'ai l'impression que c'est assez répandu, c'est les gens qui sont plutôt maladroits ou agressifs malgré eux, donneurs de leçons, des fois condescendants, de « mais pourquoi tu fais ça, c'est de la merde ». Et en fait, je sais que moi, j'ai été très comme ça parce que je suis dans une famille où il y a quand même pas mal de fumeurs et je supportais pas de voir les adultes fumer parce que je voulais pas qu'il leur arrive des trucs et tout. Et j'ai une tante notamment à qui j'arrêtais pas de dire « mais fais pas ça, mais arrête, mais pourquoi, mais c'est horrible ». On la lâchait pas, quoi. Et en fait, en fumant, j'ai compris. On est souvent comme ça, pas qu'avec le fumeur, hein, sur plein de sujets. Tant qu'on ne vit pas certaines expériences, on pense pouvoir être donneur de leçons en disant « mais n'importe quoi, moi jamais je ferai ça, jamais je me serais fait avoir par ceci, cela ». Mais c'est en ça qu'il ne faut pas oublier qu'il faut de l'accompagnement, de la vraie bienveillance et de la compréhension, quoi.
Et c'est pour ça que moi, je suis très contente d'avoir été fumeuse. Mmh. Et je vais même te dire, j'ai même poussé le délire jusqu'à arrêter de boire de l'alcool. Parce D'accord. que justement, je me disais… Je ne suis pas crédible, en fait, quand je suis là en train de dire aux personnes que j'accompagne, bah, vas-y, bah, contrôlez-vous le soir, c'est comme de boire un petit verre, vous n'en prenez pas. Et puis moi, le week-end arrivé, hop, 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 je buvais des verres d'alcool. Et donc là, j'ai dit, OK, c'est bon, j'arrête. Et donc, ça fait un an et demi que je suis dans cette phase de, pas un an et demi du tout, je rêve là. Un an.
D'accord. Bon, ça va.
Ça va,
déjà pas mal.
Ouais.
Mais que j'expérimente ça, tu vois, un peu comme une sociologue, tu vois, de voir les réactions des gens autour, pour me reconnecter justement à la pression que tu peux avoir quand tu sors un peu du rang. Et pour répondre à ce que tu disais, les pires personnes pour t'arrêter de fumer, malheureusement, c'est les proches. Parce que les proches, en fait, ils ont envie d'arrêter de, ils ont envie que tu arrêtes de fumer parce que tu leur fais peur quand tu arrêtes de fumer. Et donc, en fait, ça dit quelque chose d'eux, tu vois. Ils ont peur pour toi, ils ont peur de souffrir si tu pars, ils ont peur de souffrir si tu es malade. Et donc, en fait, ça, ils te balancent toutes leurs émotions. Et toi, bah, tu te les récupères comme ça. Mais généralement, les émotions, comme tu dis, elles sont négatives. Et le meilleur moyen que tu connais pour régler ces émotions négatives, c'est fumer. Donc moi, très souvent, tu vois, je travaille ça avec les personnes. Je leur dis, OK, donc on va commencer à s'occuper de votre conjoint ou de vos enfants. On va se faire un petit déroulé en communication non violente que vous allez potasser, bichonner et tout ça. Puis à un moment, vous allez leur présenter très calmement. Et on va voir comment ils vont recevoir ça et pour qu'ils vous lâchent la grappe. Parce qu'en fait, plus ils sont sur vous comme ça, moins vous avez envie et moins vous réussissez à arrêter de fumer.
Et puisqu'on parle de famille, Alice, en fait, moi, je suis dans une famille où mon frère est fumeur, mon père est fumeur, je suis fumeuse. Ma maman n'a jamais fumé. Et donc, du coup, ça me fait penser à ça parce qu'elle est souvent en train de me faire des réflexions du genre, tu vois, je vais préparer une quiche. Et donc, le sujet de discussion n'a absolument rien à voir avec la clope, mais tout va être la clope, quoi, tu vois. Elle va me dire, bah, tu vois, quand on fait une quiche, bah, par exemple, il faut arrêter de fumer. Les trucs qui n'ont aucun sens. Donc, elle aimerait vraiment que j'arrête de fumer, mais elle le fait tout le temps avec maladresse. Et puis, maintenant, je ne l'entends même plus tellement elle le fait. Mais est-ce qu'il y a des prédispositions comme ça, par exemple, pour être... Si, par exemple, tu as eu des parents fumeurs, tu vas forcément être fumeur. Enfin, tu vois, est-ce que c'est des choses que tu as déjà constatées en consultation?
Bah, bien sûr. Et puis, c'est pas que des choses que je constate, c'est des choses qui sont sourcées scientifiquement, hein. Que quand tu vas avoir une hérédité de l'addiction, ça existe l'hérédité de l'addiction. Ça ne va pas tout faire. Tu vois, ce n'est pas parce que tu as eu un père ou une mère qui était alcoolodépendante que tu vas être alcoolodépendante, heureusement. Mais il y a quand même une prédisposition, tu vois, sûrement un cerveau un peu plus sensible, un peu plus sensible. Mais après, tu as plein d'autres choses. Tu as ton environnement. Toi, par exemple, sans parler forcément des gènes, le fait d'avoir des parents qui fument autour de toi, ça, on le sait aussi, fait que les enfants vont plus facilement fumer. Mmh. Mais ça, pour une réaction... Moi, c'est comme ça que je l'explique, mais pour avoir eu une mère qui fumait énormément, il y a un moment donné, tu as beau lire sur les paquets « Fumais-tu ?», quand tu vois ta mère qui s'enquille 3 paquets de cigarettes, tu te dis « ça peut pas être si dangereux que ça, elle ferait pas ça, parce que là, c'est du suicide ». Tu vois, et donc tu as un truc un peu dans le cerveau qui te dit non, c'est bon, c'est bon. Ouais. Et donc forcément, l'enfant va être plus amené à tester. Voilà. Et puis après, il y a le côté, le produit aussi. Le produit, il t'accroche plus ou moins.
Ouais.
Je veux dire, d'avoir une hérédité ou un parent qui prend de l'héroïne ou pas, toi tu prends de l'héroïne, t'es mal engagé parce que de toute façon, le produit, il t'accroche.
Ouais.
Et la cigarette, en fait, c'est ça aussi. Hein. La cigarette, c'est un produit hyper addictif.
Ouais. Mais là, pour le coup, je comprends ce que tu dis parce que j'ai l'exemple d'un copain que je connais depuis maintenant 20 ans. Et en 20 ans, on a souvent fait des soirées où justement, il y avait des cigarettes, machin. Tout le monde a fini par devenir fumeur régulier. Et lui, c'est le seul qui est capable encore aujourd'hui. Il est capable de fumer une cigarette ou deux dans une soirée et après, il ne va pas fumer pendant 3 semaines. S'il y a une autre soirée, OK. Après, si c'est plus pendant un an, il fume plus pendant un an parce qu'il est parti vivre au Brésil. Après, quand il revient, machin, il y a une soirée, OK. Mais il n'a pas du tout, j'ai l'impression, ce côté addiction. Alors, comment ça se fait? Parce qu'on nous dit quand même que la cigarette, enfin la nicotine est addictive. Mais est-ce que ça veut dire que la plus grosse addiction est mentale et que la physique n'est pas si difficile? Ou au contraire, il y a des gens pour lesquels c'est tellement pas dans le tempérament que même une addiction un peu difficile physiquement, bah, ils s'en accommodent très bien, ils pensent à autre chose, quoi.
Non, c'est vraiment que, comme je te disais tout à l'heure, tu as 5% des fumeurs qui n'ont pas le cerveau accroché par la nicotine.
Okay.
Donc ça veut dire que c'est vraiment physiologique. Après, de toute façon, toutes les personnes qui fument, il va y avoir un aspect psychologique et comportemental, des habitudes que tu vas créer et tout ça. Mais c'est là où tu te rends compte qu'en fait, à partir du moment où tu n'es pas accroché physiologiquement, tout ce qui est psychologique et habitude, c'est presque anecdotique. Évidemment, c'est très important, mais parce qu'à partir du moment où tu es dépendant physiquement, et ben, tes habitudes, elles sont renforcées par le poids de la dépendance physique, tu vois. Mais ton copain, là, lui, finalement, c'est comme manger un carré de chocolat, quoi. Tu vois, s'il y a du chocolat, c'est bien. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Et c'est comme ça que la plupart des gens fonctionnent. Tu ne vas pas te rouler par terre si tu n'as pas de chocolat, a priori. Mais c'est un cas très rare. Et ce qui est très intéressant aussi, là, et j'en profite pour le dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que je vois qui me disent « Mais oui, mais moi, je connais un tel qui est fumeur occasionnel. » Comme si ils pensent que cette personne, comme elle peut le faire, ils peuvent le faire aussi. Sauf que les personnes qui sont fumeurs occasionnels n'ont jamais été fumeurs quotidiens. Ouais. Et donc, à chaque fois, je les interroge là-dessus. Je leur demande, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'a jamais fumé, enfin, comment il a fumé dans le passé, quoi? Et en fait, ils se rendent compte que bah, non, il n'a jamais été accroché, en fait.
Ouais. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai essayé, pour le coup, quand j'ai arrêté de fumer, de devenir un fumeur occasionnel, après avoir totalement arrêté. Et puis, en l'espace de quelques mois, j'ai totalement replongé. Et donc, la fois où j'ai arrêté pour de bon, il y a maintenant 2 ans et demi, je savais que, voilà, je me suis dit, OK, plus jamais une seule cigarette en aucune circonstance. Et au moins, je sais qu'il y a moins de danger de retomber, quoi, parce que je n'ai pas l'impression de pouvoir être ce genre de personne, ça, c'est clair.
Oui, puis bon, hein, d'après ce que te dit Alice, en plus, le fait pas.
Ah, ça ne marchera pas. Hein. Et justement, quand tu dis à Alice que c'est... donc, il y a cette addiction quand même de... Alors, je ne sais plus comment tu disais ça, dans les comportements, quoi. C'est une habitude. Et on en parlait tout à l'heure avec Anso, quand tu lui disais, si tu fumes, c'est forcément qu'il y a une raison. Est-ce que tu notes des choses assez récurrentes, assez générales, assez répandues, justement, dans les raisons pour lesquelles les gens aiment fumer?
Ah oui, la première de loin, c'est l'association tabac-alcool.
Ok.
Ça, c'est vraiment le truc qui fait que c'est vraiment le dernier fil à couper très souvent. Les gens ont beaucoup de mal à imaginer pouvoir boire de l'alcool sans fumer. Et ça, mais c'est parce qu'en fait, c'est vraiment un combo maléfique où il y a tout à la fois, il y a le psychologique, parce que tu es forcément dans un moment plaisir, donc tu es dans un moment de joie, où il y a des émotions positives. Donc ça renforce ça, l'idée que la cigarette participe à ces émotions positives. Après, tu as le comportemental, le conditionnement, où évidemment, si depuis toujours, chaque fois que tu as bu un verre d'alcool, tu as pris une cigarette, bah, dès que tu vas avoir de l'alcool, ton cerveau va appeler très très fort la cigarette. Et puis, il y a aussi une réaction chimique qui se fait dans le cerveau, parce que l'alcool endort le cerveau. Et donc, comme il ne supporte pas d'être déséquilibré, il va appeler quelque chose qui le réveille. Et la meilleure chose qu'ils connaissent pour réveiller, le meilleur stimulant qu'ils connaissent, c'est la cigarette. Parce que quand tu fais alcool, ils pourraient faire caféine, par exemple, mais alcool, café, c'est pas GG. Donc, ils préfèrent alcool, cigarette. Et c'est ce qui fait que tu peux boire beaucoup plus que tu ne boirais normalement et fumer surtout beaucoup plus. Il y a des gens qui me disent « je fume 2 cigarettes par jour, sauf si je sors, je peux fumer un paquet ». Je leur dis « mais vous imaginez fumer ce paquet de cigarettes dans la journée ?» Ah, ils disent « non, c'est pas possible ». C'est l'alcool qui permet ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'alcool, cigarette, c'est le pire truc. Après, tu as alcool café, tu as alcool pause. Et notamment, je vois beaucoup de mamans qui ont vraiment besoin de cette cigarette parce qu'elle les isole. C'est le truc que les enfants comprennent. des enfants, tu leur dis « Maman va fumer sur le balcon, ne venez pas, c'est dangereux pour la santé », les enfants ne viennent pas et du coup, tu es tranquille.
Ouais.
Et donc ça aussi, c'est un cercle vicieux. Parce qu'après, elles se disent « Mais si j'enlève ça,
j'ai plus qui est d'ailleurs
assez paradoxalement qu'elles appellent leur bouffée d'oxygène, mais quand elles le disent, elles se disent « Bon, il y a un truc qui ne va pas », elles se disent que si elles l'enlèvent, elles vont peut-être se faire du bien à la santé physique, mais pas forcément mentale, parce qu'elles n'auront plus de pause. Donc c'est ça aussi qu'on travaille, tu vois, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour mettre de l'oxygène, du vrai, dans la journée, pour pas arriver au bout du rouleau le soir chez toi pour rentrer dans le tunnel des enfants.
Ouais, parce que c'est un vrai bouleversement quand même quand t'as fumé pendant longtemps d'arrêter comme ça, c'est pas aussi simple que justement ce que veut faire croire des fois l'entourage ou que ce que nous on essaie de se faire croire, parce que c'est aussi une façon de se dire je suis pas tellement addict, je contrôle, et puis ça peut faire du coup peur de se dire mince, comment ça se fait que j'y arrive pas. Mais tu vois, je compare ça un peu au fait de quand j'ai arrêté de manger de la viande par exemple, même si c'était un choix, il a fallu un peu réapprendre à vivre. Enfin, c'est bête, mais
oui.
Tu dis, attends, mais moi, d'habitude, mes légumes, je les accompagne avec un truc qui se cuit et c'est un animal, quoi. Comment je fais si j'ai plus ça? Je vais pas manger que des haricots, c'est dégueulasse. Et en fait, c'est ça aussi qui doit faire peur. Ce bouleversement de ma vie, elle est réglée comme ça aujourd'hui et lâcher les choses que je connais, ça doit être assez vertigineux, quoi.
Ouais. C'est pour ça que c'est très important pour moi, et c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est de commencer par la dépendance, l'addiction à la nicotine, parce que ces chamboulements-là, ça va être un sujet. Ça ne doit pas être douloureux, ça ne va pas l'être a priori, parce que justement, on va travailler pour mettre en place d'autres plaisirs, j'aide les personnes vraiment à réorganiser leur vie. Mais si là-dessus, tu rajoutes l'anxiété, l'agitation, l'humeur dépressive et tout, ça passe pas. Tu n'acceptes pas le chamboulement dans ces cas-là. Donc, il faut vraiment baliser d'abord tout ce qui est nicotine. Et après, tu t'occupes de revoir tout ça. Mais tu vois, quand tu t'interrogeais pour savoir ce que tu allais mettre à la place de ton steak, ce n'était pas douloureux. Tu as trouvé des options. Tu avais de la hauteur sur la situation. Tu te disais, OK, bon...
Et puis, j'avais l'envie, en fait. Je pense voilà. Que comme tout, si j'avais été contraint, je me serais dit, oh non, c'est trop difficile. Mais là, quand on a envie, c'est un peu un jeu, finalement. C'est, tiens, qu'est-ce que je peux faire à la place?
Mais ça, c'est justement, c'est ultra important ce que tu dis sur l'envie. Et ça, Alice, il faudra que tu répondes à cette question, parce qu'on dit tout le temps que pour qu'un fumeur puisse arrêter de fumer, il faut qu'il en ait vraiment, vraiment envie, quoi. Mais tu vois, par exemple, moi, j'arrive toujours pas à le trouver, ce côté... Ouais.
Alors, pour citer Johnny, des fois, on a l'envie d'avoir envie.
Oui, c'est qu'on me donne l'envie.
Qu'on me donne l'envie. Oui. C'est vrai? Est-ce qu'on peut nous donner l'envie d'avoir envie?
Exactement.
Bah, c'est là, tu vois, où c'est très vicieux, je trouve, toutes ces discussions sur la motivation, parce que parfois, on confond motivation et volonté, notamment les proches, tu vois, qui peuvent te dire, justement, c'est pas si compliqué, vas-y, lance-toi. Parfois, moi, quand je suis en atelier, en entreprise, tu vois, je demande aux personnes, justement, quelle est la première étape, et puis t'en as qui disent, bah, c'est prendre la décision. Généralement, tu vois, c'est des bons bonhommes, tu vois, il y a vraiment une différence d'ailleurs entre hommes et femmes, je trouve, c'est rigolo, tu vois, et c'est éducationnel, c'est clair, tu vois, que c'est que l'homme, il faut qu'il y aille, il est fort, il y va, et les filles, elles sont beaucoup plus ok pour rentrer en introspection et analyser, prendre le temps et tout. Donc ça, je sais, voilà, j'aimerais creuser un peu plus le sujet, mais c'est vraiment quelque chose que je remarque à chaque fois. Mais en tout cas, la motivation, c'est vraiment quelque chose de compliqué, et il faut accepter aussi que c'est compliqué, et donc ça demande du temps à travailler. Tu vois, c'est pas juste avoir les bonnes raisons. C'est aussi, comme je te disais, regarder exactement à quoi te sert la cigarette. Parce que si tu n'anticipes pas ça, bah, tu vas être comme ça et tu vas pas avoir envie. Donc, tu vas avoir peur, tu vas pas avoir envie de te lancer, de chambouler ta vie, de te retrouver complètement perdu parce que tu as quand même une vie, comme beaucoup, qui est un peu stressante, qui est prenante. Et tu dis, si je rajoute ça, je vais péter un plomb. Ouais. Donc en fait, il faut absolument que tu anticipes ça. Il faut que tu réfléchisses aux situations dans lesquelles tu aimes beaucoup fumer pour voir comment tu peux faire. Il faut avoir un état d'esprit jeu, plaisir, tu vois. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter à la place dans ma vie? Et puis aussi, il y a vraiment un travail de recherche d'infos, tu vois, de vraiment comprendre que... et je pense que je sers aussi à ça, tu vois, pendant les rendez-vous avec les fumeurs, c'est quand je leur fais prendre conscience que le plaisir qu'ils ressentent, en fait, n'est qu'un soulagement. Ou quand je leur fais prendre conscience que le plaisir qu'ils ressentent est tellement fort, tellement chimiquement boosté, tellement artificiel, et qu'ils vont devoir le payer à crédit, en fait, et le rembourser, ce plaisir. Et que ce plaisir est tellement fort qu'il écrase tous les petits plaisirs de la vie. Et finalement, quand tu fumes, quand tu bois de l'alcool, quand tu prends n'importe quel produit comme ça, psychotrope, tu te déconnectes de la réalité. Tu n'arrives plus à ressentir un simple plaisir en regardant un coucher de soleil ou en mangeant quelque chose de bon ou potentiellement même en faisant l'amour, tu vois. Finalement, c'est peut-être même plus assez satisfaisant en termes de boost de plaisir. Et donc là, quand tu comprends ça et que tu te dis qu'en arrêtant, ces plaisirs artificiels. Tu vas te reconnecter à tes émotions profondes, en plus. Et qui dit tes émotions profondes, dit tes besoins profonds. Donc finalement, tu vas mieux te connaître. Bah, tu vas avoir une vie vachement plus riche.
Allez, Anso.
Je vais fumer une clope.
Vu qu'on parle de ça, est-ce que tu peux nous expliquer donc toi tu traites tu t'occupes des gens qui ont justement pour objectif d'arrêter de fumer et tu traites ça via hypnose?
Non, pas du tout.
D'accord.
Non, moi je suis coach de forme, enfin je suis tabacologue, j'ai un DU de tabacologie. Ah non, si vous pensiez que j'étais hypno, non, je ne suis pas.
Non, mais moi je pensais aussi, mais je pense qu'on a mélangé.
Ah, je sais, c'est parce qu'on a parlé dans l'épisode sur l'hypnose, on avait parlé d'arrêter de fumer via hypnose.
Peut-être, tu
c'est
crois
pour
vraiment
ça qu'on
s'est
mélangé
c'est...
Bah oui, bien sûr. Okay. Parce qu'on a fait un truc sur l'hypnose il y a pas longtemps où on disait, ah, c'est bien pour arrêter de fumer.
Ouais,
mais tant mieux, parce qu'on aurait fait deux épisodes sur l'hypnose, ça aurait été chiant.
Ouais.
Est-ce que tu as un avis quand même là-dessus? Est-ce que tu t'en as entendu parler? Est-ce que tu as des connaissances là-dessus en te disant, ok, ça a l'air de marcher pour certaines personnes, ou y a un effet mode? C'est quoi ce truc?
Non, alors déjà, l'hypnose, ça marche. Hein, et il y a un bon moyen de savoir si une méthode est efficace ou pas, ou si on peut lui faire confiance, c'est de voir si elle est rentrée à l'hôpital ou pas. L'hypnose est rentrée à l'hôpital, donc a priori,
okay.
C'est qu'il y a des bonnes sources scientifiques.
Je ne savais pas.
Ah si, maintenant tu opères des gens sous hypnose.
Bon, on a bien fait de parler d'hypnose. Hein. Oula, il faut avoir sacrément confiance. Hein.
Ouais, c'est quand il pleure que tu dis ah non, ça marche pas.
Il n'est pas hypnotisé.
C'est quand il crie. D'accord.
Mais non, l'hypnose est vraiment rentrée. Et l'hypnose, en fait, est hyper efficace pour s'occuper de tout ce qui est de la partie addiction psychologique et comportementale. Par exemple, les croyances que tu as sur la cigarette, les peurs que tu as, les habitudes. Tu vois, ça va aller casser des connexions que tu peux faire, par exemple, entre alcool et tabac. Mais ça ne va rien faire sur la dépendance.
D'accord, donc ce serait plutôt un complément de ta méthode à toi, quoi.
Oui, alors après, oui et non, parce que moi, justement, je ne suis pas que tabaco-nicotine. Moi, j'ai une approche coaching qui va justement travailler les croyances, qui va travailler les conditionnements, mais plutôt en mode cognitivo-comportemental. Okay. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces méthodes, les TCC,
ouais.
Les thérapies cognitivo-comportementales. Ben, moi, j'ai une approche cognitivo-comportementale. D'accord. Donc, en fait, j'aide les gens à se mettre sur pause. On zoome, on regarde ce que le cerveau nous a envoyé comme petite pensée automatique, où on va regarder quel est l'automatisme et on va travailler, vraiment, on va se poser et on va travailler sur comment faire autrement. Et l'hypnose, en fait, te permet de faire ça plus vite.
Ouais.
C'est une autre méthode.
Bah, je sais que en termes de psychologie, j'ai envie de dire générale, moi qui suis allé voir pas mal de psys, j'avais cherché des psys qui faisaient justement de la... Bah, c'était TCC, c'est ça, hein, thérapie cognitive ou comportementale, parce que c'était décrit comme des thérapies qui, justement, nous permettent de nous comprendre un peu avec les outils qu'on a là, maintenant, en ce moment, comment fonctionne notre cerveau, pourquoi je réagis comme ça dans telle circonstance, et qui venaient, du coup, un peu changer par rapport à toutes ces méthodes de psychologie qu'on connaissait pendant des années, de raconte ta vie, on va aller chercher dans l'enfance, dans le machin, dans le truc. Et il y avait quelque chose de beaucoup plus concret déjà et qui permettait d'avoir des résultats plus rapides aussi. Puisque c'était comme faire des exercices musculaires, tu fais ça avec ton cerveau, tu dis ah ok, quand j'ai ça, je pense à ça, je fais ça, et ça peut changer la vie très très vite. Donc je me doute qu'appliquer à l'univers de la cigarette pour quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer, ça doit être même enthousiasmant en fait pour les gens.
Ben oui, parce qu'en fait, et c'est aussi pour ça que j'ai fait une formation pour être coach, parce que je savais que c'était dans cette direction là que je voulais aller, mais aussi parce que très rapidement je me suis rendu compte que, encore une fois, la cigarette est un outil. Et comme c'est un outil, une fois qu'on a découvert pourquoi c'est un outil, je trouvais ça horrible de dire « bon, bah voilà, il y a un petit sujet de confiance en vous, bonne chance, et à bientôt bah, ». Non, ce n'était pas possible. Il fallait absolument que je me sente légitime pour pouvoir aller aider là-dessus, pour pouvoir aller aider les personnes à s'organiser. Tu vois, c'est sur des sujets plus ou moins profonds. Alors évidemment, la limite avec la thérapie, la psychothérapie n'est pas... Il ne faut pas la franchir, donc il faut vraiment connaître ses limites et pas aller sur les causes, sur les traumas, les choses comme ça, les blessures d'enfance. Encore que on peut entendre, tu vois, des blessures et nous, ça nous aide à travailler. Mais c'était hyper important pour moi de pouvoir aller sur ces sujets. Ce que j'adore, c'est que j'ai vraiment le sentiment de donner le pouvoir aux gens, en fait, de mieux se comprendre, de connaître leurs biais cognitifs, de connaître leurs croyances, de les aider à faire des pas de côté. Et à partir du moment où tu travailles comme ça, en fait, tu les aides à travailler sur des sujets bien plus importants. Tu changes la disquette, quoi.
Et ça se passe comment quand quelqu'un vient te voir? Il faut, évidemment, même si c'est très différent suivant les gens, quand même, pour qu'on se rende compte, on est d'accord que c'est pas un coup de baguette magique, c'est pas on vient te voir une séance et tout roule derrière.
C'est très drôle ce que tu dis parce que justement, tu sais, je fais des petits réels sur Instagram et le prochain là qui va sortir mercredi ou vendredi, c'est justement sur ce sujet-là.
D'accord.
C'est de, y a des personnes qui me demandent si je peux les accompagner en une séance et non, justement, j'aurais beaucoup aimé, mais non, je ne peux pas parce que t'imagines que la cigarette, elle est ancrée dans leur vie depuis des années et des années. C'est un mensonge de dire qu'en une séance, c'est possible, tu vois. Et pourtant, les gens sont hyper intéressés par ça. Évidemment, c'est plaisant, tu vois, de te dire que comme ça, bam, tu vas te libérer. Donc j'ai plein de demandes moi sur mon site pour les magnétiseurs, pour tu vois, plus c'est un peu perché,
C'est
même
vrai.
si voilà, je sais pas si c'est perché, mais en tout cas pas sourcé scientifiquement, ça c'est sûr, bah, plus ça plaît. Et là j'entends énormément parler des piqûres dans les oreilles par exemple. Il faut faire attention parce que les piqûres dans les oreilles, tu vois, c'est 2 sessions, ça coûte cher. Il y a quand même peu de personnes qui ont arrêté définitivement avec ça. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que quand on te dit j'ai X% de réussite, est-ce que ces personnes qui sont accompagnées, ces patients, si on peut appeler ça des patients, sont suivis sur plusieurs années? Tu vois? Moi, les
Si.
pourcentages de réussite, ça, attention, méfions-nous.
Moi, j'avais jamais entendu parler de cette méthode. Hein,
Non, ça donne pas envie, hein.
non, mais du coup, j'ai pas du tout envie d'y aller. Mais du coup, tu disais un truc intéressant parce que est-ce que ça veut dire que plus tu as été fumeur longtemps, plus tu as besoin de travailler de séances ou ça n'a rien à voir si du coup on met le doigt sur la source du problème, entre guillemets, et du pourquoi on fume et pourquoi on met en place ces habitudes, ça peut aller plus vite.
Ça peut aller plus vite. Et puis en plus, ce qui est assez contre-intuitif, c'est qu'en fait, je me rends compte. Là, ça va faire 8 ans maintenant que je fais ça. Donc, tu vois, ça fait un petit bout de temps que j'accompagne des fumeurs. Et donc, je commence à vraiment discerner, tu vois, des tendances. Et très clairement, quand tu es un très gros fumeur, donc ça veut dire que tu es dépendant fort physiquement, eh ben, le fait de prendre de la nicotine, en fait, ça te soulage tellement. Parce que tu es tellement dans les montagnes russes toute la journée que rien que ça, en fait, ça te chamboule la vie positivement. Et donc, beaucoup de choses à côté rentrent dans l'ordre toute seule. Et tu te dis, oui, tu as peut-être un petit moment d'un petit pop-up, un petit truc, mais tu as tellement été confronté au côté négatif de la cigarette que c'est bon, tu n'y retourneras pas. Là où c'est plus compliqué, c'est pour un fumeur occasionnel. Quelqu'un qui a fumé, par exemple, pendant 2, 3 ans, qui commence à sentir qu'elle est un peu accrochée, mais qui en même temps a beaucoup de plaisir encore, c'est plus compliqué.
Mais ouais, je pense que c'est ce qui s'est passé avec moi. Moi, j'ai senti que je commençais à m'accrocher quand c'était trop tard, quoi. Et c'est ce qui a fait que derrière, ah, j'ai commencé à tomber en disant, bon, ça va se régler tout seul. Et puis, bon, bah, au bout d'un moment, tu te dis, bon, faut que je fasse un truc parce que ça ne marche pas.
Mais du coup, Alice, les gens viennent en tant que particulier, c'est-à-dire que moi, bon, de toute façon, je devais t'appeler, donc j'ai bien compris que je pouvais
Tu vas le faire,
t'appeler,
tu vas le faire.
que j'allais le faire. Mais tu as aussi parlé d'entreprise aussi tout à l'heure, donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui font appel à toi pour sensibiliser leurs salariés. Enfin, en tout cas, j'aimerais connaître un peu, est-ce que tu vois un changement un peu des comportements humains face à la cigarette? Est-ce que tu trouves que les jeunes, par exemple, fument moins? Est-ce que, vu que tu interviens dans les entreprises, est-ce que tu as senti une baisse de la consommation de la clope ou pas du tout? Enfin, tu vois.
Alors en entreprise, oui, moi j'entends de plus en plus que quand j'ai en amont, tu vois, les décisionnaires au téléphone, souvent ils me disent, il n'y a pas grand monde qui fume chez nous. C'est plutôt positif. Après, comme je fais des ateliers en petits groupes, et que c'est quand même un truc, hein, de venir à un atelier organisé par ton entreprise, c'est clair que je ne vois pas tous les fumeurs de l'entreprise. Parce qu'ils ont peur d'être pointés du doigt encore un petit peu peut-être et tout. Mais en tout cas, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de vapoteurs.
Oui,
Ah, ben
Donc
ça, je voulais en
c'est
parler
une
aussi.
Oui, parce que c'est un gros sujet. Et puis après, par rapport aux jeunes, bah ça, c'est des chiffres, hein. Moi, je vois peu de jeunes en rendez-vous, forcément, parce qu'ils ne
Oui.
sont pas encore dans cet état d'esprit-là d'arrêter. Mais les chiffres disent qu'en tout cas, il y en a de moins en moins.
D'accord. Et alors, est-ce que c'est au détriment de, enfin, ou au profit plutôt des vapoteuses? Parce que c'est vrai que moi, je connais aussi dans mon cercle proche de plus en plus de gens qui vapotent, mais il n'y a pas encore cette notion de ah, je suis accro, il faut que j'arrête. Enfin, c'est comme si la vapoteuse, du coup, ça restait un truc un peu cool à côté. Là, pareil, je sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est pire que la cigarette? Pareil, est-ce qu'on ne sait pas? Et parce que on peut lire tout et son contraire là-dessus aussi.
Alors moi, j'adore parler de la cigarette électronique parce que c'est un sujet qui est assez complexe et qui se complexifie, je trouve, parce qu'il y a des nouveaux entrants qui ne respectent pas les règles qu'on tente de mettre en place. Donc c'est encore plus difficile aujourd'hui d'y voir clair. En gros, la vape, c'est assimilée comme un produit du tabac par l'Union européenne. Donc c'est censé respecter des règles pour être mis sur le marché. Et il y a ce qu'on appelle la TPD, qui est une directive avec plein de choses à respecter. Et il y a aussi AFNOR, qui crée des normes, qui a créé une norme pour la vape, pour contrôler la qualité des e-liquides, vérifier qu'il n'y a pas de produits cancérigènes dedans, qu'il n'y a pas d'exhausteurs de goût, des choses comme ça qui pourraient être mauvaises pour la santé. Donc, si tu as ça, tu te dis, si tu as ces produits-là qui respectent la norme AFNOR, La cigarette électronique, celle-là, est infiniment moins dangereuse pour la santé parce que tu n'as pas de combustion, parce que tu n'as pas de monoxyde de carbone, de goudron, que tu n'as pas les produits chimiques qui sont dans la fumée de cigarette. Il y en a quand même 7000. Donc, je ne sais pas combien qui sont cancérigènes. Là, c'est comparer des choses qui sont incomparables, en fait,
D'accord.
pour la vape. Mais tu as des nouveaux entrants, comme la puff, par exemple, qui vient de Chine, pré-scellée, qui, autant te dire, ne respecte pas du tout la norme AFNOR. Tu as aussi des produits qu'on peut acheter sur Internet qui viennent des États-Unis, qui ne respectent pas du tout la norme AFNOR. Et en fait, ces produits-là, tu vois, bah, vous voyez, vous n'avez pas les connaissances parce que c'est trop compliqué en fait de savoir s'y retrouver là-dedans. Et donc, tu as des personnes qui vont aller prendre des puffs, des machins en se disant, bah, finalement, c'est une vape. Non, c'est pas une vape comme les autres. Et sans compter les problématiques de communication, de distribution de la puff où tu vois ça.
Et c'est ça, ils faisaient, tu sais, c'est les trucs que tu pouvais acheter n'importe où, d'ailleurs que tous les jeunes prenaient à la sortie du lycée, quoi. T'as goût pomme, goût coca, goût fraise, enfin c'est hallucinant, quoi.
C'était jetable, non, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est à usage unique, tu peux pas les recharger. Mais d'ailleurs,
Oui, on
c'est pas interdit
peut.
chez nous, d'ailleurs, ça?
Alors en fait, ça vient d'être
Ah,
interdit,
c'est
mais
ça.
après, il faut que ce soit appliqué.
Ouais, ok.
C'est comme
Combien de
pour
temps ça
tout.
va prendre, je ne sais
Mais
pas.
alors, ça veut
Enfin,
dire que on peut déjà être au clair là-dessus. Ok, on inhale beaucoup moins de produits toxiques, mais du coup, la nicotine qui est toujours là, elle a quand même des effets sur la santé, sur le cœur.
alors, la nicotine, elle a pas d'effet dangereux sur la santé.
Ok.
Tu vois, c'est en fait la nicotine, ça s'assimile un peu à la caféine. Ton corps te dit quand tu bois trop de café, il y a un moment, t'en peux plus, t'as mal au cœur, t'as des palpitations. Tu vois. La nicotine, c'est la même chose. Si t'as trop de nicotine, ton corps te dit stop. La nicotine, en fait, dans la cigarette, elle est ajoutée, elle est boostée par plein de produits chimiques qui vont faire qu'elle va arriver en shoot au cerveau. Donc, en fait, c'est la combinaison de tous ces produits, tu vois, qui sont agrégés comme ça à la nicotine, qui font que la cigarette est hyper addictive. Mais après, la nicotine en tant que telle, elle n'est pas dangereuse. Quand tu es en sevrage de nicotine, ton corps réclame de la nicotine. Et c'est pour ça qu'en fait, on donne de la nicotine de substitution pour donner de la nicotine à ton cerveau, mais plus en shoot. Parce que ce à quoi tu es accro, c'est au shoot.
Oui, donc c'est pour ça que tu as des patchs, des gommes, des trucs comme ça, des trucs à mâcher. Mais attends, mais il faut être sacrément tordu, non, pour avoir créé un truc comme ça. Pour se dire, non mais franchement, quand tu réfléchis 2 secondes,
La cigarette?
pour qu'un gars, ouais, qui se dise, attends, on va y foutre de la nicotine, mais on va booster le bazar avec des produits chimiques pour que ça arrive dans le cerveau comme un espèce de shoot. Mais il faut être tordu, hein.
Ça s'est fait petit à petit. Parce qu'au début, le tabac devait se consommer différemment. Enfin, on va pas peut-être pas faire l'histoire du tabac.
Bah, si, moi
Je suis
j'ai
pas
eu
sûr qu'on a
4 heures à tuer.
le temps. Le tabac, au début, si, il était beaucoup plus naturel, mais il s'inhalait pas. Parce que tu ne pouvais pas inhaler, en fait, le pH était beaucoup trop élevé. Donc là, élevé ou trop bas, à chaque fois, je confonds. Mais en tout cas, il y avait un problème de pH. Et donc, le premier truc qu'a fait l'industrie du tabac, un des premiers trucs, ça a été justement de modifier le pH pour qu'on puisse inhaler la fumée le plus profondément possible. Parce que plus tu inhales profondément ta fumée, plus tu vas avoir de la fumée qui va rentrer et plus tu vas avoir de nicotine qui va rentrer dans le sang. Ensuite, ils ont rajouté des produits pour qu'une fois que la nicotine soit dans le sang, elle puisse monter le plus vite possible au cerveau. Donc en fait, ils ont oui, en effet, ils ont fait petit à petit, mais il faut quand même se dire, donc je souriais Anso parce qu'en fait, pour moi, à partir du moment où tu captes à quel point tu te fais avoir par l'industrie du tabac, à quel point il y a peu de ils s'en fichent de toi, mais tu sais même pas qu'ils s'en fichent de toi en fait. Enfin, tu verrais les mots qu'ils emploient, enfin pour les jeunes, c'est des fumeurs de remplacement, enfin c'est un business model incroyable quand même, tu vois, le marché addictif, c'est qu'en fait, tu attrapes un fumeur. Et après, le fumeur, il va rester de toute façon, parce que ça va être hyper dur pour lui d'arrêter. Puis en plus, tu véhicules un petit peu l'idée que ça va être très dur, comme ça, il va moins se lancer, tu vois. Et puis, tu vas y véhiculer le fait que c'est hyper cool, que ça fait partie de la vie, que si tu fumes pas, t'es pas drôle, là, là, là. Enfin, bref, après, tu gardes, tu vois. Donc, même machiavélique, c'est pas un mot assez fort, enfin, tu vois.
Mais même toi, de ton ancienne vie, Alice, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu bossais qui t'ont vu comme une traître?
Bah, je te cache pas que j'ai un peu coupé les ponts.
Ouais.
Ouais.
Au début, j'avais un peu peur même, tu vois, parce que je disais des choses sur mon site qui n'étaient pas du tout nouvelles, en fait, en vrai, hein, parce que tu lis un peu des bouquins dessus, tu retrouves tout. Enfin, il n'y a pas vraiment de surprise, mais moi, quand je balançais un petit peu les choses que j'ai vécues à l'intérieur, tu vois, que je trouvais très choquantes et qui m'ont permis d'arrêter de fumer, bah, j'avais peur que mes clients se retournent contre moi, ou tu vois, enfin, tu sais pas, quoi, tu dis que c'est quand même un monde Même si, à mon avis, ils n'ont rien à faire de moi. Mais...
Ouais, enfin, c'est toujours quand même peu rassurant quand quelqu'un qui a bossé dans une industrie sort en disant ah, c'était pas génial, et puis il fait totalement autre chose. T'sais, c'est comme quand tu as des potes, quand tu es étudiant qui bossent chez McDo, et qui te disent ouais, moi, je vais plus manger chez McDo. Bah, pourquoi ? Tu travailles, il paraît que c'est cool. Ouais. Mais quand tu parlais des. Je voulais savoir des aides pour la nicotine, par exemple, les patchs, les
nicorettes, des trucs comme ça.
Est-ce que toi, c'est des choses que tu. Que tu peux proposer à certains à certaines personnes qui viennent te voir, ou tu fais du total sans produit, on est que dans du coaching et on sait de rien?
Ah non, 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 moi, comme je te disais tout à l'heure, moi, le premier truc que je regarde, c'est la dépendance physique, et moi, je suis à fond pour la nicotine.
Okay.
Parce qu'en fait, à partir du moment où les gens ont de la nicotine et qu'ils sont bien dosés en nicotine, ils sont tellement mieux dans leur pompe,
ouais.
Tu vois, qu'on peut enfin se mettre à travailler correctement. En fait, moi, j'aime bien l'image, tu vois, de dire que c'est comme si tu avais un chien, genre un gros Rottweiler qui est là, qui te hurle dessus, et tu te dis, mais je vais me faire bouffer si je ne lui donne pas sa dose. Et de l'autre côté, tu as un petit caniche qui est là, qui vient te chercher. Tu ne peux pas entendre le caniche quand tu as le Rottweiler qui te hurle dessus.
Ouais.
Donc d'abord, on met le Rottweiler à la niche, et après, on s'occupe du caniche, qui est tout D'accord. aussi enquiquinant, mais qui n'est pas dangereux.
D'accord, parce que moi j'avoue que j'ai une expérience un peu particulière quand j'ai arrêté de fumer, c'est que la fois où ça a marché, j'ai utilisé des patchs qui me mettaient pas très à l'aise, donc je suis passé aux gommes, donc les chewing-gums, et là j'avoue, je trouvais ça super parce que il y avait ce côté immédiatement qui me soulageait, quoi. Dès que j'avais envie de fumer, je prenais une gomme et... Ok, donc j'ai baissé la nicotine parce qu'il y a plusieurs dosages de nicotine sur la gomme jusqu'à arriver à la plus basse, mais j'étais quand même accro. C'est que j'arrivais à un moment où la cigarette ne me manquait plus, mais je voulais tout le temps mes nicorettes. Et petit à petit, j'ai réussi à transformer ça en chewing-gum normal. C'est que je faisais une nicorette, un chewing-gum. Mais du coup, j'ai été addict au chewing-gum parce qu'il fallait que je mâche un truc.
Ouais.
Et après, je crois que je suis passé genre petit à petit sur des tic-tac.
Et maintenant, et après, c'est l'héroïne.
C'est ça, je suis revenu sur la cocaïne et l'héroïne et ça va. Non, non, mais tu vois, j'ai dû faire une espèce de descente palier par palier, mais ça a marché. Mais quand je dis ça aux gens, d'habitude, ils font « Oula, ouais, non, c'est chaud. »
Ouais, mais moi, tu vois, je recommande en priorité le patch, parce que justement, le patch, en fait, tu coupes ce côté appel de nicotine, réponse.
Ouais.
Ton patch, il est là, vraiment, tu lui délègues totalement le travail. Et en plus, si tu as vraiment besoin, bah, tu vas aller prendre peut-être une petite pastille, une petite gomme, un peu de vape, tu vois, mais temporairement. Mmh. Mais c'est très important de suivre ça, justement, parce qu'il y a des personnes que je vois qui me disent, bah, moi, ça fait 10 ans que je suis aux pastilles. Ah oui, bah non, bah, c'est pas l'idée.
Ouais.
Parce que ça peut être dangereux si c'est trop longtemps.
C'est pas que c'est dangereux, mais qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu voudrais arrêter de fumer, tu vois. Tu pourrais arrêter de fumer pour ta santé. Et donc, dans ces cas-là, bah, tu prends un peu trop de pastilles. Bon, bah, c'est pas très grave. C'est pas idéal parce que tu as un peu de pas d'aspartame, mais tu vois, t'as
des sucré,
tu vois. Ouais. Et donc, à un moment donné, quand t'en prends pendant 20 ans, c'est peut-être pas génial. Mais c'est surtout au niveau de la liberté. C'est-à-dire quand tu es toujours là en train de te dire où sont mes gommes et tout, tu vois, il y a un moment où...
Oui, tu as remplacé une addiction par une autre.
C'est ça.
Voilà. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'ils veulent vraiment pour pouvoir leur proposer le chemin le plus adapté pour qu'ils soient vraiment hyper, hyper sécures.
Ah, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, mais j'ai une demi-heure de retard. parce que quand on parle d'aller voir, pourquoi pas, un magnétiseur ou hypnothérapeute, tous les gens qui te disent est-ce que ça peut se régler en une séance, je pense qu'il y a un truc d'époque aussi où on est habitué à avoir tout de suite, on commande à manger, il faut que ça arrive maintenant, on veut un Uber, il est en bas de chez nous et on se fait déposer je ne sais pas où, il faut qu'il y ait un métro ou un bus qui arrive toutes les deux minutes, faut que dès que j'ai envie de regarder un film, paf, j'allume ma télé, je suis déjà connecté sur 1000 plateformes et tac, je veux ça maintenant. Et donc forcément, ça ne m'étonne pas qu'on te demande ça. On voudrait tout sans travailler, quoi. Et je pense que c'est aussi le... c'est un autre sujet, mais je pense que c'est une grande cause de notre malheur aujourd'hui, dans notre société, c'est que ne plus savoir ce que c'est que de devoir patienter ou attendre ou faire des efforts pour obtenir des choses, ça fait qu'on ne se satisfait pas de ce qu'on a derrière, quoi. Et donc, quelque part, t'arrêtes de fumer, t'y arrives demain.
Ouais, mais c'est
tu vas
important.
Refumer dans 6 mois, quoi, parce que tu vas dire, c'est bon, je sais comment j'arrête, maintenant je vais aller voir Michel, il me fait abracadabrouf, et puis paf.
Mais moi, je trouve que c'est important ce que tu dis, parce que, en fait, en réalité, si c'était trop facile d'arrêter de fumer aussi, bah, ce serait trop facile de reprendre aussi.
T'enchaînes après, tu pourrais arrêter, reprendre.
Donc, c'est peut-être pas plus mal de traverser une période peut-être un tout petit peu difficile et de le vivre ce moment qui soit désagréable et compliqué. Pour ne pas retomber, quoi.
Sachant qu'encore une fois, tout est relatif, tu vois. Moi, je travaille avec les gens pour que ce soit pas douloureux. Mmh. Mais c'est un chemin. Et donc, tu vois, parfois, ils me disent, ah, c'est long, et je leur dis, bah, souvenez-vous, gardez-vous bien ça en tête pour dans 2 mois, 3 mois, de vous rappeler toutes les phases par lesquelles vous êtes passé, où vous vous êtes dit, c'est le temps qu'il faut pour me séparer de ça, quoi.
Ouais.
Et je suis complètement d'accord avec toi, Greg, tu vois, il y a un truc qui s'appelle le biais de proximité. Et c'est vraiment, le biais de proximité, c'est un des biais cognitifs qu'on retrouve le plus, en fait, dans les addictions. C'est cette impulsivité à consommer tout de suite pour avoir un plaisir, plutôt que de repousser ce plaisir dans l'idée d'avoir un bien-être à plus long terme. Ton cerveau, il n'est pas capable, il veut prendre tout de suite ce qu'il faut. Et ça, en fait, tu te rends compte que notre société, elle augmente complètement ce biais avec Insta, avec ce système de récompense aléatoire, tu vois, où tu es là en train de scroller. Pareil, tu as tout ce que tu veux, comme tu disais, tu as tout ce que tu veux quand tu veux. Et donc, tu ne supportes plus la frustration. Mmh. Et donc, ça aussi, ça passe par réapprendre à laisser le temps au temps, se recentrer, tu vois, écouter ce qui se passe à l'intérieur, quoi, mettre sur pause.
Ouais.
Et comment on fait, Alice, si par exemple il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, je crois que cette femme m'a véritablement donné envie d'arrêter de fumer. comment on fait pour te contacter sur ton site internet? Est-ce qu'il faut te voir? Est-ce qu'on peut le faire à distance?
On peut le faire à distance. On peut le faire. J'ai un cabinet. Pour l'instant, c'est un mardi sur deux chez Ginessé. C'est un superbe lieu qui est dédié aux femmes. Mais moi, je reçois aussi des hommes. Mais
quelle rebelle, voilà, celle-là. Oh là là, quelle rebelle.
C'est une petite maison et tout, en plein Paris. C'est vraiment super, super joli. Et après, on peut prendre rendez-vous avec moi sur Médoucine. Okay. Médoucine, c'est une sorte d'Octolib, mais des médecines douces.
D'accord.
Et après, là, on me trouve sur les réseaux, le déclic anti-clope, tout ça. Mais oui, si je vous ai donné envie d'arrêter de fumer, venez me voir.
Bah oui, surtout que de ce que j'ai l'air de comprendre, quand on commence avec toi, il n'y a pas une nécessité d'arrêter la clope tout de suite. Bon, on se parle, ça veut dire que maintenant, votre dernière cigarette, c'était ce matin. C'est-à-dire que tu avances au rythme des gens, donc les gens continuent à fumer pendant qu'ils sont en séance avec toi au début.
Et c'est surtout, moi, mon premier objectif, tout premier, c'est vraiment de créer une relation de confiance plus. Donc, je ne suis pas du tout là pour imposer des choses aux gens. Ils viennent me voir pour que je les aide, je vais les aider. Je ne vais pas leur imposer quoi que ce soit, tu vois. Je vais vraiment essayer de comprendre le plus possible. Enfin, moi, il y a vraiment une image qu'à chaque fois qu'on me demande comment j'accompagne, j'ai cette idée, tu vois, d'être vraiment connectée avec la personne. Je suis un peu la rampe, tu vois, la corde qu'elle va suivre sur le chemin. Donc, si elle veut... Et parfois, tu vois, il y a des chemins qui, pour moi, ne sont pas les meilleurs. Tu vois, quand quelqu'un, par exemple, veut réduire sa consommation, passer par là, je trouve que c'est un chemin qui est compliqué, qui peut être rassurant, mais qui est compliqué parce que finalement, tu es toujours en train de te dire « Attends, je la prends maintenant, je la prends plus tard, ah non, je ne sais pas. » Et donc, finalement, tu es obsédé encore plus par la cigarette. Donc, j'essaye d'expliquer à la personne que, selon moi, c'est peut-être pas le moyen le plus rapide. Mais si vraiment elle insiste, ben on part comme ça. Et puis c'est moi qui m'adapte, en fait. C'est pas à eux de s'adapter à ma méthode.
Ouais. Non, c'est super. Moi, je dis à Anso, il faut que tu essayes.
Moi, je sens bien que, de toute façon, en plus, j'ai eu 40 ans. Enfin, tu vois, tu passes des caps comme ça dans ta vie où tu te dis, bon, puis bon, j'ai une maladie chronique. Enfin, il y a quand même tout qui me met sur le chemin qu'il faudrait que j'arrête de fumer.
Ouais, t'as pas l'argent non plus, hein, de fumer.
J'ai pas la thune. Enfin, bref. Il n'y a rien qui va, quoi. Mais de ce que j'ai compris, là, ça demande un petit travail d'introspection. Et je pense qu'en ce moment, j'ai pas les reins, tu vois. Je ne suis pas tout à fait solide pour aller gratter et aller chercher les pourquoi du comment. Mais par contre, Alice, je garde effectivement ton numéro. Si je dois me faire aider quelqu'un, je veux que tu sois ma corde.
Première chose que j'ai à te dire, c'est que si tu ne te sens pas capable tout de suite de rentrer en introspection, choisis une vape. Tu vois, typiquement.
Essaye, c'est vrai. Hein.
Alors, en boutique indépendante, tu choisis une vape Normafnor et ça sera temporaire, ce ne sera pas idéal parce que ce n'est pas rien, mais au moins, ça va régler beaucoup de sujets physiologiques.
Le problème de la vape, c'est que je trouve que cette espèce de côté fête foraine, barba papa...
Mais il n'y a pas, ce n'est pas que barba papa, tu as des goûts neutres et tout. Non, là, c'est parce que tu as des a priori.
Ah oui, comme, j'ai totalement des a priori.
Comme sur les personnes qui viennent de pays différents, qui ont d'autres religions,
c'est pas vrai.
Ou qui ont une sexualité différente de la tienne. Tu sais, ce côté intolérant que tu as envers tout le monde, tu l'as aussi avec les vapes, fais attention. Oh pardon, je voulais pas le dire au micro. non, je voulais finir avec une petite anecdote, si tu veux bien, Alice. Et ça se trouve, c'est pas très intéressant, mais moi, ça m'intéresse. Comment t'as arrêté de fumer, toi? Comment ça s'est passé?
Moi, déjà, je l'ai pas fait en une fois. Ça, c'est important aussi de le dire. Hein, c'est que c'est rare qu'on y arrive quand même du premier coup. Et si c'est pas du premier coup, c'est pas grave, on apprend des choses.
Et tu fumais beaucoup, Alice, ou pas? Tu fumais beaucoup?
J'ai un paquet et demi par jour.
Ah, ouais. Okay.
Donc oui, je fumais beaucoup. J'étais vissée à ma cigarette toute la journée. Et en fait, là, moi, j'ai essayé plusieurs fois et la difficulté que j'ai eue, c'était qu'à chaque fois que j'arrêtais de fumer, je me retrouvais à un salon pro je repartais avec des cigarettes. Où tu vois, où je découvrais les nouvelles petites cigarettes, les machins. Donc, à un moment donné où c'était trop compliqué, et je disais, allez, donne-moi juste une, et je repartais. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté de fumer définitivement? C'est que vraiment, les essais se rapprochaient de plus en plus, que j'en pouvais vraiment plus, que je toussais, que je sentais vraiment que ça allait pas, que ma grand-mère était morte quelques mois avant d'un cancer du poumon. Comme elle était vieille, elle n'avait pas voulu avoir de traitement parce qu'elle s'est dit, bon, ça va, j'ai 85 ans. Laissez-moi partir. Du coup, j'ai vraiment vu le cancer du poumon et je me suis dit, mais c'est horrible. Il est hors de question que je meure comme ça. Mmh. Sachant que je fumais beaucoup plus qu'elle, que j'avais commencé beaucoup plus tôt qu'elle. Et je me disais, mais c'est vraiment ça qui m'attend. Je vois pas comment je pourrais échapper au pronostic. Donc ça, c'était quand même très motivant. Et le fait que tous les soirs, je me couchais en me disant, demain, j'arrête. Okay. Demain, j'arrête. Et tous les matins, je reprenais.
D'accord.
Et un jour, je me suis levée vers 8 heures. À 8 heures et quart, j'en étais déjà à ma troisième cigarette. Et là, j'ai dit, vraiment, ça va pas du tout. Je suis sortie, je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté mon patch et c'est fini.
D'accord.
Ah, donc tu t'es même pas fait aider du tout, tu as fait ça comme une grande, quoi.
Et c'est la première fois où je mettais des patchs.
D'accord.
Et tu vois, ça a vraiment changé ma vie parce que du coup, en fait, j'ai pas souffert. Ouais. J'ai pas eu besoin d'arrêter de prendre du café, par exemple. Parce que la première fois, des fois avant, j'avais changé contre le thé. Je trouvais ça horrible de boire du thé, déjà que j'avais arrêté de fumer.
Mais oui, c'est
alors
ça.
Que là, finalement, j'avais juste mes patchs, j'étais bien, je sentais que... L'oxygène revenait, j'avais téléchargé, je me souviens, Tabac Info Service à l'époque, où c'était vraiment pas du niveau d'aujourd'hui, où je recevais un texto tous les 3 jours d'un bot qui me disait « Bravo, 3 jours de plus !» Et j'étais là « Ouais !» Comme quoi.
Mais t'as des applis même qui sont hyper bien faites maintenant, qui disent combien t'as économisé de sous, combien t'as économisé de points de vie, combien t'as...
Je me demande à quel point c'est nécessaire. Alors, après, c'est peut-être parce que moi, je ne suis pas du tout une personne sensible à tout ça. Mais je me demande à quel point c'est vraiment motivant ou si c'est gadget. Bon, de toute façon, chacun avance
midi
avec,
à sa porte.
Non, avec les outils qui lui font du bien. Moi, je sais que ce que j'ai aimé aussi avec la nicotine, quand tu as reparlé du patch, ça m'a fait penser à ça. C'était d'être dans un état, alors le mot est un peu fort, mais de nausée. C'est-à-dire que je me souviens que ça m'arrivait de fumer 2 cigarettes à la fois. Enfin, à la suite.
Ah ouais.
Quand j'étais en pause, tu vois, tu fais une clope et puis tu as un autre collègue qui arrive, tu fais une deuxième. Et je me souviens de cet état après la deuxième, c'est-à-dire que tu n'as pas envie d'une troisième. Même quand tu es un gros fumeur, la troisième, tu ne peux pas parce que si on t'entend une, tu vas faire. Tu sens cette espèce de holker. Et bien en fait, avec le patch, j'étais tout le temps sur ce truc-là. Donc c'était pas assez désagréable pour que je me sente en envie de vomir ou un truc comme ça toute la journée. Ouais. Mais c'était assez désagréable pour que si on me tente une cigarette, je fasse oula, non. C'est comme si je venais d'en fumer deux. Et ça, c'est vrai que
il était quand même un petit peu trop dosé, ton patch.
Ah ouais oui. C'est peut-être pour ça que je l'ai arrêté.
Il vaut mieux le savoir, hein, même si c'est trop tard.
En tout cas, non, c'était super intéressant. J'espère que ça a pu donner envie aux gens qui nous écoutent et qui fument encore de se dire, OK, pourquoi pas contacter Alice, pourquoi pas essayer de m'occuper de moi dans le sens où je peux me faire accompagner de manière non culpabilisante, juste en mode, vas-y, raconte-moi ta vie, t'en es où? Et puis on voit ensemble ce qu'on peut faire ou pas, quoi.
Et prendre de la distance aussi sur la façon dont on consomme. Tu vois, même moi, je sais que je vais pas arrêter demain ou dans le quart d'heure. Mais en tout cas, peut-être que demain, je me dirais, tiens, pourquoi tu la fumes celle-là? Enfin, peut-être prendre un peu de distance et essayer de comprendre pourquoi.
Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard pour toi? Enfin, elle est bête cette question, je sais ce que tu vas répondre. Mais non, mais parce qu'il y a des gens, oui, évidemment. Mais il y a des gens qui peuvent se dire ça. Oh, vas-y, j'ai 50 ans, j'ai fumé toute ma vie, ça sert à rien, je suis foutu.
Ouais, non. Il y en a beaucoup qui se disent ça, mais non, en effet, il y a aucun. Enfin, faut toujours arrêter de fumer, ça fera toujours du bien. Et l'objectif ultime, c'est pas de récupérer l'espérance de vie qu'on avait à la naissance. Le premier objectif de vie, c'est de récupérer une qualité de vie, tu vois, j'ai envie de dire de santé physique, tu vois, où tu vas mieux respirer, être mieux oxygéné et tout ça, mais aussi mental. C'est-à-dire que tu vas arrêter de culpabiliser, tu vas arrêter de te dire que t'es nul, tu vas regagner confiance en toi, tu vas avoir un peu des idées joyeuses revenir, quoi, tu vois, parce que c'est hyper plombant finalement quand tu fumes et que tu te dis qu'il faut mais que tu fais pas.
Bah, tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, avec le sentiment de liberté quand tu fumes, parce que bizarrement, tu dis que c'est ta bouffée d'oxygène et que tu te sens libre parce que tu fais ce que tu veux. Je trouve que quand vraiment tu n'as plus aucun lien avec la cigarette et la nicotine, c'est là que tu comprends ce que c'est la vraie liberté. Et c'est hyper agréable de pouvoir te dire waouh, je suis au restaurant, mais j'ai pas besoin de me lever, j'ai pas envie d'aller dehors.
C'est vrai. Mais pour tout, tu as raison. Enfin, c'est ça, on fume plus dans les maisons, donc tu es obligé d'aller dehors quand il fait froid, on est tous là, on a froid. Enfin, en fait, tout est un non-sens.
L'aéroport,
ridicule.
Quoi. Enfin, la boîte de nuit à l'époque, quand on était jeune. T'imagines, dans le petit truc où tu es enfermé.
C'est horrible.
L'aéroport, dans les trucs, là, les espèces de bocaux.
Les smoking lounge, là, où tout le monde pue la clope après parce que tout le monde fume. Tu sais plus où jeter ton mégot, donc tu es là avec des mégots dans la poche, tes manteaux, ils puent.
Et les gens, ils te regardent à travers la vitre. Oh, des fumeurs, regardez. Ouais. Oh, des fumeurs.
C'est, en fait, tout est un non-sens en réalité, quoi.
Donc, ouais. C'était très intéressant de reparler de tout ça. Ça m'a bien donné envie de m'y remettre, moi. Non, surtout pas, surtout pas.
Et moi, la petite anecdote aussi, quand je suis passée sur Fun Radio il y a quelques années, j'étais dans ma petite pièce en train d'attendre de passer, en train d'accéder au direct. Et ouais. Il y avait mon petit garçon à l'époque qui attendait dans la cuisine, qui écoutait. Et vous avez dit que j'étais la meilleure tabacologue de l'univers.
Ouais.
Il ne m'avait pas facilité la vie parce que quand il va tomber... Quand il va me faire tomber de l'estrade, parce que maintenant il le dit à tout le monde.
C'est vrai. C'est oui, mais en même temps, Alice, dans notre cœur, t'es la meilleure tabacologue de tout l'univers. C'est sûr et certain.
Non, mais c'est.
C'est trop mignon.
Bah ouais, mais en même temps, c'est qu'il a des raisons de le croire. Donc il sait qu'il peut. Voilà, s'il est dans la cuisine, tu peux fumer en sécurité, maman est là.
Justement, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais tu sais que si jamais, de toute façon, je m'en fiche, si jamais je fume, je viendrai te voir. Et je dis, ah non, parce que moi, je ne peux pas m'occuper des gens que je connais. Donc je m'occuperai pas de toi. Et là, il a dit, ah mince.
Ça m'étonnerait pas que ce soit la meilleure tabacologue de l'univers, dans le sens où, peu importe le métier dans lequel on est, à partir du moment où il y a une vraie volonté d'aider, qu'il y a de l'intelligence, qu'il y a de la.
Du sens.
Ouais, c'est juste ça. Hein. À partir du moment où tu prends n'importe quel humain dans son métier, tant qu'il fait les choses parce que bah il veut faire de son mieux, en acceptant que bah voilà, il fera toujours de son mieux et il sera jamais parfait, et qu'il n'est pas juste dans ce rôle, dans la pièce de théâtre dans laquelle on est. J'utilise tout le temps cette image, mais voilà, nous les humains, on joue le rôle du banquier, du machin, et je suis le meilleur dentiste et le meilleur machin. Bon, là c'est chiant, mais quand effectivement il y a une personne comme toi, spontanée, naturelle, et qui en plus a des compétences, une vraie sensibilité et de l'expérience, forcément que tu es la meilleure tabacologue de l'univers.
Merci.
Bref, veux-tu m'épouser ? C'est peut-être maladroit. Bon, écoute,
non,
on en reparle.
C'était mal choisi.
Je t'envoie un mail.
Ouais. Non, mais Alice, merci énormément de ta disponibilité et merci pour ce bon moment passé avec toi.
Merci à vous, c'était très, très sympa.
Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir.
Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains.
Merci par avance.
Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci.
Et bien à vous.
À vous également.
Au revoir.
Cordialement.
Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.